cela se produit environ 100 000 fois par jour. Pour être plus précis, chaque jour, environ 100 000 fois sans interruption, que vous soyez éveillé ou endormi. C'est-à-dire 35 millions de fois par an, sans relâche, année après année. Et au cours d'une vie de 70 ans, cet événement se répète environ 2,5 milliards de fois. Un chiffre impressionnant qui illustre l'endurance de cet organe vital. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit du nombre de battements de votre cœur, 100 000 fois par jour, 35 millions de fois par an et environ 2,5 milliards de fois au cours d'une vie entière. Le cœur, en accomplissant sa fonction essentielle, agit comme une pompe sophistiquée, assurant la circulation et permettant à chaque cellule de recevoir l'oxygène et les nutriments nécessaires à la vie. Votre cœur pompe environ 5 à 6 litres de sang chaque minute. Cela représente un peu moins de 8 000 litres de sang qui traversent votre cœur chaque jour. Cela fait presque 3 millions de litres en une année. Et au cours d'une vie de 70 ans, votre cœur aura déjà fait circuler 194 millions de litres de sang. C'est un organe absolument extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Mais ce n'est pas tout. Il peut être retiré d'un corps et placé dans un autre, tout en continuant à fonctionner. En fait, il y a quelques années, je regardais une émission sur les transplantations cardiaques. Vous pourriez dire que c'est plutôt macabre. Et je suppose que ça l'était, mais il est fascinant de voir qu'ils ont prélevé le cœur d'une victime d'accident, l'ont implanté dans une autre personne, et alors que le chirurgien était en train de le recoudre. Le commentateur a demandé « Comment faites-vous pour qu'il redémarre ? Faut-il lui administrer un choc électrique ?» Et il a répondu « Non. Tout ce qu'il faut, c'est un peu de sang chaud et oxygéné, et il se met à battre de lui-même. Il existe, semble-t-il, un petit nœud sur le cœur appelé le nœud sino-auriculaire qui, lorsqu'il est en contact avec le sang, envoie un signal électrique au cœur pour qu'il batte. C'est véritablement une création absolument stupéfiante, fascinante et magnifique. C'est une œuvre d'art extraordinaire réalisée par un Dieu tout à fait merveilleux au-delà de toute imagination humaine. Simultanément, lorsque nous utilisons le mot « cœur » dans notre langage quotidien, il est important de noter que souvent, nous ne parlons pas de l'organe physique, celui qui bat dans notre poitrine. Nous faisons plutôt référence à toute autre chose, à une notion beaucoup plus abstraite et profonde. Lorsque nous disons, par exemple, « est du cœur », il est évident que nous n'offrons pas littéralement les organes internes de quelqu'un, comme le cœur ou les poumons. Nous disons en réalité « fais preuve d'empathie envers les autres ». Fais preuve de compassion, de gentillesse et de compréhension. Si nous disions « elle a un si bon cœur », qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Cela signifie qu'elle est gentille. Elle est empathique. Elle éprouve réellement des sentiments pour les autres. Si nous disons à un athlète, peut-être à un jeune enfant qui apprend à jouer, mets-y du cœur, que voulons-nous dire ? Donne tout ce que tu as. Donne tous tes efforts. Travaille dur. Si nous disons quelque chose comme « ses commentaires lui ont brisé le cœur » ou « ses commentaires lui ont ôté tout courage ». Qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que cela l'a découragé. Cela l'a rendu déprimé ou abattu. Son énergie, ou son ego, ou toute impression qu'il avait de lui-même. Si nous disons quelque chose comme « elle a écrit des commentaires venus du cœur », cela signifie que c'était très authentique, très sincère. Si nous disons « cette histoire touchante m'a presque arraché le cœur », qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que cela nous a touchés émotionnellement. Et bien sûr, si vous venez du sud des États-Unis et que vous entendez une femme vous dire « que Dieu bénisse ton cœur », nous n'avons aucune idée de ce que cela signifie. Cela pourrait être positif et vouloir dire « tu es vraiment gentil ». Mais, plus probablement, cela signifie que vous êtes un idiot. Eh bien, avec cela à l'esprit, c'est-à-dire en gardant cette idée présente dans nos pensées, j'aimerais poser la question suivante à chacun d'entre nous. Quel est le lien profond, véritable et essentiel entre le cœur humain et la religion? Et quel est le lien avec la vérité de Dieu? Quel rôle important, central et fondamental, le cœur, devrait-il jouer dans votre vie spirituelle et aussi dans la mienne? La Bible, ce livre ancien et sacré, mentionne le cœur très souvent. Plus de 900 fois, ce qui est vraiment remarquable. Le mot « cœur » est utilisé aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Il est utilisé de façon très fréquente. Des centaines et des centaines de fois. Et parmi ces centaines de fois, la grande, grande majorité ne fait pas référence à l'organe miraculeux qui bat dans notre poitrine et qui fait circuler la vie dans notre corps. Il s'agit de tout autre chose. Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est explorer ce que la Bible dit au sujet du rôle du cœur dans notre vie chrétienne et dans nos croyances que nous appelons communément la vérité. Quel est le rôle du cœur? Reportez-vous avec moi, si vous le voulez bien, au chapitre 6 de la Genèse. La toute première fois que le mot « cœur » est utilisé dans la Bible, c'est dans ce livre, et nous avons souvent dit que parfois, la première utilisation d'un mot dans la Bible peut être particulièrement instructive. C'est peut-être le cas ici. Et au chapitre 6 de la Genèse, alors vous vous souvenez évidemment du plan général du livre. Nous arrivons au chapitre 6, et nous voyons cette méchanceté incroyable se répandre sur la terre, à tel point que Dieu se voit contraint d'intervenir et d'y mettre fin avant que cela ne conduise à une destruction totale, avant le moment voulu, dans le calendrier du plan de Dieu. Examinons donc ce passage, dans Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Toutes les pensées, sans exception, de leur cœur, se portaient chaque jour, jour après jour, uniquement vers le mal. Ainsi, la toute première fois que le mot « cœur » est mentionné dans l'Écriture, il ne s'agit pas de notre organe vital, ce muscle qui bat dans la poitrine de chaque être humain. Il est question, en réalité, de la personne intérieure, de l'être intérieur, de chaque intention, de chaque désir, de chaque pensée, chaque volonté. Le cœur, en lui-même, ne pense pas, il ne raisonne pas, mais il est le siège de toutes ses intentions profondes. Ainsi, il représente la personne la plus intime. Tout ce qui concernait la culture dans le monde à cette époque était continuellement mauvais et égoïste. Chaque jour. Et ce mot, uniquement. Les pensées de leur cœur n'étaient tournées que vers le mal, chaque jour. Il est intéressant de noter que le verset 6 parle également du cœur de l'Éternel. Le verset 6 dit que l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Dieu était attristé et affligé. Ainsi, dès la toute première mention du mot « cœur », nous constatons qu'un cœur, un être en son fort intérieur, les sentiments d'une personne, son intellect, tout ce qui constitue une personne peut être mauvais ou peut être affligé. La plupart du temps, lorsque la Bible utilise le mot « cœur », elle fait référence aux pensées et aux désirs les plus intimes d'une personne, à ce qui la constitue réellement, à ce qu'elle est vraiment. Le cœur est aussi le siège des émotions les plus intimes, et c'est souvent ainsi que nous utilisons le mot « cœur ». Avoir du cœur, avoir une compassion et une émotion appropriées. Ainsi, la Bible montre, parmi ces deux références et en plus de celles-ci, que les cœurs peuvent être décrits de multiples façons, littéralement des dizaines de façons. Je vais en énumérer seulement quelques-unes ici. Un cœur, dans la compréhension humaine et spirituelle, peut être joyeux, peut être rempli de joie profonde et sincère. Un cœur peut également être découragé, déçu, encouragé, éclairé, triste, endurci, heureux, plein, vide, compréhensif, insensé, désireux, avide, craintif, circoncis ou incirconcis. Ce ne sont là que quelques exemples parmi tant d'autres de ce à quoi la Bible fait référence lorsqu'elle utilise le mot « cœur ». En effet, le cœur, selon les Écritures, peut aussi être reconnaissant, aimant, compatissant, brisé, repentant ou encore ouvert à la sagesse et à la compréhension. Ce que nous comprenons donc, c'est que le cœur humain est véritablement un aspect complexe, profond et multidimensionnel de notre relation avec Dieu. Un aspect absolument essentiel et important de notre relation avec lui. Car sans le cœur, on pourrait vraiment se demander, mais que nous reste-t-il, à nous, êtres humains? Il ne nous reste, en fin de compte, qu'un intellect vide, dépourvu de toute profondeur. J'aimerais sincèrement que vous preniez un moment pour vous reporter avec moi à l'Évangile selon Marc, au chapitre 7. Dans ce passage, Jésus fait une déclaration très importante. En fait, il cite le prophète Ésaïe et il parle du cœur humain. Marc, chapitre 7, verset 6. Ici, Christ s'adresse directement aux pharisiens, ils étudiaient cette écriture, ils la méditaient, et pourtant, il leur manquait quelque chose d'essentiel. Mais ce qui leur manquait souvent, ce qui semblait toujours leur faire défaut, c'était le cœur. Un cœur de compassion. Ainsi, Christ fait cette déclaration au verset 5. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais mangent-ils le pain avec des mains impures ?» Et Christ ne répond pas immédiatement à la question, il met en avant leur manque de cœur. Il leur a répondu, sans rien mentionner au sujet des mains impures, car cela viendra plus tard. D'abord, il parle de leur cœur. Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, comme il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres. Et nous avons souligné, en parcourant les évangiles avec nos étudiants, que les personnes pleines de propre justice paraissent souvent très bonnes et se situent probablement dans la même catégorie que les pharisiens. Hypocrite. Ce peuple m'honore des lèvres. Il dit ce qu'il faut. Il pourrait même avoir les bonnes doctrines. Mais leur cœur, dit-il, est éloigné de moi. Leur cœur, ce n'est pas leur esprit, mais bien leur cœur. Ils ne comprennent pas que cet amour, cette compassion, cette bienveillance envers autrui manque tout simplement dans leur cœur. Verset 7. Alors, quoi ? Quel est le résultat ? En vain, ils m'adorent, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Nous pourrions continuer à partir de là, mais c'est là que nous allons nous arrêter pour l'instant. De tout cela, nous pouvons déduire effectivement que Dieu désire que notre cœur soit proche du sien, non pas éloigné de lui, mais bel et bien proche du sien. Et c'est une chose extrêmement importante. Reportez-vous avec moi dans l'Évangile selon Matthieu, s'il vous plaît, Matthieu, chapitre 22. Et allons au verset 36. Matthieu 22, 36. Et remontons au verset 34, pour un peu de contexte. Christ en dit davantage sur cette question du cœur. Matthieu 22, verset 34. Lorsque les pharisiens apprirent qu'il avait réduit les sadducéens au silence. Imaginez-vous maintenant dans cette situation, si vous êtes un pharisien, les sadducéens sont en quelque sorte vos ennemis. Et lorsque vous apprenez que le Christ a remis les sadducéens à leur place, vous vous dites intérieurement « Ah, c'est bien fait ». Mais ensuite, que va-t-il se passer ? Ils vont eux aussi être remis à leur place. Alors, ils se sont rassemblés. Puis l'un d'eux, un docteur de la loi, lui posa une question pour le mettre à l'épreuve. Cette expression, ici, « le mettre à l'épreuve », cela n'a rien de positif. Mettre à l'épreuve, dans ce contexte, signifie essayer de le piéger sur un point incorrect, afin de pouvoir le discréditer. Verset 36, Maître. Quel est le plus grand commandement de la loi ? Nous avons tous lu ce passage des centaines de fois, mais concentrons-nous sur ce que Jésus a dit. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Jésus ne dit pas en premier, tu dois obéir. Non. Nous savons tous que si nous aimons Dieu, l'obéissance va de soi. Mais qu'est-ce qui vient en premier ? C'est ce cœur qui aime vraiment Dieu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Comment ? De tout ton cœur. Notre vérité ne se limite pas à une compréhension intellectuelle. Il y a un amour profond pour Dieu, pour sa vérité, pour son peuple, pour sa façon de vivre. Il y a de l'émotion qui est impliquée. Ce n'est pas ce qui prime, ce n'est pas la première chose, mais elle doit être présente. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Nous sommes entièrement engagés. Non, je ne pense pas qu'il y ait eu un pharisien ou un scribe qui aurait été en désaccord avec Christ jusqu'à ce point, mais parce qu'il manquait de cœur, il passe immédiatement la suite de sa réponse. Et il n'allait pas s'en sortir aussi facilement. Verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Autrement dit, ne vous arrêtez pas au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain comme soi-même. Et c'est sur ces deux commandements, non pas sur l'un de ces commandements, mais sur ces deux commandements, que reposent toute la loi et les prophètes. Ainsi, ce qui préoccupait Christ, c'est que la vérité soit quelque chose que nous aimons, que Dieu soit quelqu'un que nous aimons. Et lorsque nous aimons Dieu de tout notre cœur et de tout notre esprit, de toute notre force et de toute notre âme, nous pourrions alors dire que cela s'exprime en aimant notre prochain comme nous-mêmes. Ainsi, la vérité de Dieu n'est pas simplement quelque chose que nous connaissons. C'est quelque chose que nous devons ressentir intensément. Nous devons aimer de tout notre cœur, c'est-à-dire de tout notre être. C'est autour de cela que notre vie s'articule. Ce qui est au centre de notre vie, C'est notre amour pour Dieu, notre amour pour sa voie de vie et notre amour pour notre prochain. Maintenant, existe-t-il des exemples dans la Bible auxquels nous pourrions nous référer pour illustrer ce type d'amour pour Dieu? Eh bien, examinons un exemple dans les Actes, au chapitre 6, acte 6. La plupart d'entre nous savent que le chapitre 6 des Actes introduit une fonction entièrement nouvelle dans l'Église, une fonction d'autorité et de responsabilité, à savoir celle de diacre. Nous n'allons pas entrer dans une longue discussion sur ce qu'est un diacre et sur ses fonctions, mais nous allons parler de l'un des diacres. Il est dit que lorsque les diacres ont été choisis, ils l'ont été pour servir l'Église. Ainsi, les apôtres ont demandé aux frères et sœurs, « Cherchez parmi vous et faites-nous des suggestions. Donnez-nous des noms de personnes. » Et ils ont exposé les critères qu'ils recherchaient. Il fallait que ce soit des hommes remplis du Saint-Esprit et qui servaient, etc., etc. Nous n'allons pas tout détailler. Mais au verset 5, il est dit, « Cette proposition plut à toute l'assemblée. » Ils estimaient donc que c'était une chose valable. Les apôtres auraient bien entendu le droit de dernier recours, pourrait-on dire. Ils prendraient la décision finale de déterminer qui serait ordonné, et la proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent donc Étienne. Et il est dit à son sujet qu'il était « un homme plein de foi et du Saint-Esprit ». Il remplissait donc les conditions que les apôtres avaient fixées pour ces hommes. Ensuite, il énumère également les autres diacres. Mais passons maintenant au verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Ainsi, ces miracles, ces signes attestaient apparemment de la véracité de son message et de sa mission. Et ils attiraient l'attention d'autres personnes dans la région, probablement celles qui voulaient préserver leur propre position ou leur influence. Étienne semblait faire d'importants progrès, des avancées notables, sur leur territoire, ce qui suscitait sans doute des réactions et des inquiétudes parmi ceux qui se sentaient menacés par sa présence et son action. Verset 9, quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec Étienne. Discuter ici ne signifie pas nécessairement une simple conversation. J'imagine que les voix ont pu s'élever quelque peu lors de ces échanges. Le verset 10 précise qu'ils n'étaient pas capables de résister à la sagesse et à l'esprit par lequel ils parlaient. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple. Ensuite, Étienne est amené devant le conseil, et au chapitre 7, il prononce ce discours éloquent, point par point, pourrait-on dire, sur Israël et Juda, et sur la façon dont chaque étape majeure de l'histoire d'Israël et de Juda s'est déroulée. Qu'ont fait les Israélites? Qu'ont fait les Juifs? Ils ont rejeté les prophètes de Dieu et la voix de Dieu. En général, il tuait les personnes concernées. Ainsi, il expose cette excellente explication de leur attitude. Si nous reprenons l'histoire dans les Actes, chapitre 7, au verset 51, après qu'Étienne a exposé tous ses faits depuis le début, en passant par Moïse, Abraham, etc., il arrive à la conclusion au verset 51, et j'aimerais imaginer comment cela a pu être dit. Vous savez, je pense qu'Étienne a dit cela avec une certaine émotion. Je pense qu'il y mettait tout son cœur. Je ne crois pas qu'il ait dit, « Mes amis, ne seriez-vous pas un peu têtus? Vous devriez cesser. » Non. Vous êtes des gens au cou raide. Incirconcis de cœur. En fait, il leur dit franchement, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous avez ce voile sur votre cœur. Vous refusez d'ouvrir votre cœur à Dieu, à sa vérité et à celle que je viens de dire. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Je ne sais pas comment vous pouvez prononcer ces paroles sans émotion, sans cœur. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Qu'avons-nous dit sur Étienne? Qu'il était totalement engagé? Pensez-vous qu'il aimait Dieu? Qu'il aimait Christ de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit? Je pense que nous pouvons voir qu'il aimait ainsi. Verset 54, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Et lorsqu'on a la rage au cœur, il n'y a que deux options, se repentir ou attaquer. Et bien sûr, c'est la seconde option qu'ils ont choisie. Il grinçait des dents contre lui. Il n'écoutait pas et ne répondait en aucune manière à l'accusation. Ils attaquaient simplement. Et vous vous souvenez de l'histoire, Étienne est lapidé à mort. Mais pouvons-nous dire qu'Étienne parlait avec le cœur? La vérité était-elle seulement quelque chose qu'il comprenait intellectuellement? Ou dirions-nous qu'il était passionné par la vérité? Il était manifestement tellement passionné par la vérité concernant Christ, comme son Messie, qu'il était prêt à mourir pour cette vérité. C'est cela, être totalement engagé. C'est la passion pour la vérité. Voyons maintenant un autre exemple dans le chapitre 13 des Actes. Dans Actes chapitre 13. Examinons un peu plus le contexte avant de lire ce passage. Barnabas et Saul sont choisis pour voyager et pour enseigner la vérité de Dieu dans les régions situées en dehors de Jérusalem, dans les territoires païens. Et ils accomplissent cette mission de manière remarquable, avec beaucoup de détermination et de foi. Il y aurait évidemment des personnes semblables aux affranchis, dont les oreilles et les cœurs étaient incirconcis, c'est-à-dire fermés à la compréhension du message. Et nous avons constaté, même de nos jours, que les ténèbres détestent la lumière, qui représente la vérité et la bonté. Et parfois, sans autre raison, persécutent la lumière simplement parce qu'elle est lumière. Elle est trop éclatante. C'est trop fort pour moi. Ainsi, Paul voyage avec Barnabas et ils enseignent. Vous avez peut-être un titre en tête du chapitre 13 qui indique ceci, Barnabas et Saul envoyés, et l'incrédulité des Juifs. C'est ce que dit la Bible Martin. Donc, verset 42, lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Je m'éloigne un peu du sermon, car il y a un point doctrinal clair que nous devons au moins mentionner. L'apôtre Paul est souvent accusé d'être celui qui a aboli la loi et affirmé qu'elle n'était pas nécessaire. Il n'enseignait pas aux gentils. Or, ici, les gentils supplient clairement Paul que ses paroles leur soient prêchées le sabbat suivant. Ces gentils observaient le sabbat, ou du moins ils en comprenaient l'importance. C'est à ce moment-là que Paul aurait soi-disant enseigné que le sabbat n'était plus en vigueur. Et c'est l'un des grands arguments que les ténèbres utilisent contre le sabbat, c'est qu'en fin de compte, le sabbat n'était plus requis pour les gentils. Or, ce n'est tout simplement pas vrai. Paul aurait très bien pu dire « Oui, revenez demain, le jour du Seigneur, le jour du soleil, et je vous enseignerai, car le sabbat n'est plus nécessaire. » Non, ils savaient que c'est ce jour-là que Paul observerait le sabbat et qu'il enseignerait. Ils ont donc demandé à être enseignés le sabbat suivant. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. La persuasion est un appel émotionnel. Elle est logique, mais elle implique aussi de l'émotion. Verset 44, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Et un grand mouvement de soutien se forme autour de Paul et Barnabas, et que se passe-t-il à nouveau? La jalousie surgit. Notre base est en train de disparaître. Nous devons agir. Ainsi, au verset 45, les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. L'envie est une émotion. Ce n'est pas quelque chose de logique. C'est émotionnel. Ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. À ce moment-là, de quoi Paul avait-il besoin pour s'engager totalement? Paul et Barnabas se deviennent audacieux. L'audace est une émotion. Ils pouvaient exprimer leurs émotions parce qu'ils s'appuyaient sur la vérité. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même, Paul devait-il dire cela? Y aurait-il d'autres personnes? Ou une seule? Paul, vous n'étiez pas obligé de dire cela. Vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle. Certains diraient alors, « Eh bien, Paul, vous avez excité toutes ces personnes. Vous les avez rendues furieuses. » Paul était totalement engagé. Il dit la vérité avec conviction parce qu'ils avaient besoin de l'entendre. Cela devient en réalité l'une des déclarations majeures de l'Évangile. C'est que les païens seront désormais inclus. En fait, l'Évangile leur sera annoncé. Le salut pour les Juifs viendra bien plus tard. C'est donc une déclaration majeure en ce sens, puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Voici, nous nous tournons vers les païens. et il cite l'Écriture dans Ésaïe 49, 6. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Vous voulez dire que nous n'avons pas à suivre tous ces petits détails que les Juifs exigent de nous, toutes ces ablutions, ces circoncisions et ces pratiques, n'est-ce pas? Nous n'avons pas à faire cela. C'est merveilleux. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. On pourrait dire que l'appareil politique s'est mobilisé, suscitant une persécution contre Paul et Barnabas, et les expulsant de leur région. Ils furent ainsi chassés de la contrée. Ils les poursuivirent ailleurs. Chapitre 14, verset 19. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Qu'en pensez-vous? Paul était totalement engagé, son cœur était entièrement dévoué à Dieu, à la voix de Dieu, à la loi de Dieu, à son Messie, à son Sauveur, pour traverser tout cela. Cela ne fait aucun doute. Verset 20. Mais, les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Il fallait beaucoup de courage pour cela, n'est-ce pas? Dans la même ville qui venait de le lapider? Le lendemain, il partit pour Derbé avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, précisément dans les lieux où toute cette hostilité s'était manifestée contre lui. Était-il totalement engagé? Était-il rempli jusqu'au cœur, de tout son cœur, de la voix de Dieu? De la vérité de Dieu? Verset 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Pensez-vous que ce message ait résonné pour ses frères qu'il avait vu se faire lapider, puis se relever et retourner dans la ville pour affronter à nouveau ces mêmes personnes? Il ne fait aucun doute que les frères auraient été grandement encouragés par cela. Quel événement enthousiasmant à voir! Reportez-vous au chapitre 21. Actes, chapitre 21. Au verset 10. Paul prêchait toujours la vérité. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, nommé Agabus, descendit de Judée et vint nous trouver. Agabus est, à ma connaissance, le dernier prophète mentionné dans les Écritures, car désormais l'Église serait guidée par le Saint-Esprit et n'aurait plus besoin de ce genre de prophète selon le même procédé. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, nommé Agabus, descendit de Judée et vint nous trouver. Au verset 11, il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Il prophétisait donc comment Paul serait livré. Or, cette expression « livré entre les mains des païens » signifiait bien plus pour eux que ce qu'elle signifie sans doute pour nous. Mais qu'avait expérimenté Jésus-Christ? Il avait été livré entre les mains des païens et avait été mis à mort. Verset 12. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Où en était Paul? Où était son cœur? Verset 13. Alors il répondit, « Que faites-vous, en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem, pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas, et nous dîmes, « Que la volonté du Seigneur se fasse. » Alors, diriez-vous que Paul a exprimé tout ce qu'il avait sur le cœur? Était-il totalement engagé? Était-il émotionnellement attaché à la voie de vie de Dieu? Cela signifiait-il quelque chose de profond pour lui? Paul ne possédait pas seulement la connaissance de la vérité, mais il avait manifestement une passion pour la vérité, une passion pour son Créateur et son Sauveur. Nous pourrions certainement continuer avec de nombreux autres exemples de frères dont le cœur était droit devant Dieu et cette attitude, ce cœur, leur donnait une grande audace, une grande force. Mais à ce stade, posons-nous les questions suivantes. Ai-je un cœur pour Dieu et pour sa vérité? une conviction profonde et un amour profond de la vérité, un véritable amour profond pour Dieu. Est-ce que j'ai ces choses? Allons dans Matthieu chapitre 13. Je pense qu'il y a ici un passage remarquable dans Matthieu 13 et nous lirons les versets 14 et 15. Matthieu 13, versets 14 et 15. Nous avons déjà lu quelque chose de très similaire. Vous vous souvenez peut-être que Matthieu 13 est en grande partie rédigé en paraboles, des récits que Christ a utilisés pour expliquer le royaume de Dieu. Maintenant, nous comprenons. Permettez-moi de revenir un instant en arrière. Tout d'abord, la plupart des commentaires que vous lirez à propos des paraboles passent complètement à côté du sujet. La plupart des érudits affirment que Christ racontait ces histoires simples parce que, et je vais paraphraser, son auditoire aurait été ignorant et stupide. Ces gens de la campagne, ce sont des pêcheurs, des agriculteurs. Ils vivent au milieu de nulle part. Et ils arrivent, et ils sont tellement simples. Ils ont simplement besoin d'histoires simples pour expliquer la vérité. Franchement, c'est tellement faux que cela en devient risible. La raison pour laquelle le Christ racontait des paraboles, disait-il, était de cacher l'information à la foule ou de donner à la foule matière à discuter afin qu'ils débattent de ce que ces histoires pouvaient signifier, mais ils ne les comprenaient jamais. Ainsi, Christ dit aux apôtres, « C'est à vous qu'il a été donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu, pas à ces gens-là. C'est pourquoi je parle en parabole, afin qu'ils ne comprennent pas. Et ce qui me fascine, c'est que l'on peut même lire certaines paraboles que Christ lui-même explique ensuite. Le monde se trompe encore, même s'il en a expliqué le sens, ils ne le saisissent toujours pas. Regardons cela dans Matthieu chapitre 13, verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Or, Christ ne dit pas « je parle ainsi pour qu'ils finissent par comprendre ». Non. C'est ici la prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas à vous. Maintenant, vous ne comprendrez pas. Vous verrez de vos yeux et vous ne percevrez pas. Verset 15, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils n'avaient pas vraiment de connexion émotionnelle pour vouloir réellement changer, pour désirer vraiment la vérité. Ils pensaient déjà la connaître. La plupart d'entre eux se disaient, nous sommes le peuple élu. Pourquoi aurions-nous besoin de cela? Nous sommes les descendants d'Abraham, alors ils ont fermé leur cœur à cela. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, verset 15. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est une compréhension intéressante. Maintenant, peut-être que votre Bible est la même que la mienne. Le mot ici est en italique parce que l'article défini n'est pas dans le grec, donc il peut tout aussi bien être traduit par « de peur qu'ils ne comprennent avec cœur, qu'ils saisissent vraiment et qu'ils le veuillent vraiment ». Ils ne saisissent pas ce qu'est la compréhension. Elle est intellectuelle, oui, mais elle est aussi émotionnelle. Il y a ce lien. Nous aimons cette façon de vivre. Nous l'aimons profondément, de tout notre être. Lorsqu'il s'agit de la vérité et d'une relation authentique avec Dieu, il semble qu'il y ait au moins trois aspects. Peut-être s'agit-il d'une progression, peut-être pas. Mais il semble que l'on commence d'abord par voir la vérité. Il voit la vérité. N'est-ce pas vrai? Peut-être que si vous êtes un chrétien de première génération, vous avez ressenti cela, vous en êtes venu à comprendre l'une des vérités de Dieu, et vous avez dit « je vois ». Je le vois. Je ne veux pas dire que nous l'avons vu de nos yeux, nous l'avons saisi. Nous l'avons compris. Maintenant, si vous êtes de la deuxième génération, troisième, quatrième génération, peu importe, vous en êtes arrivé à ce point. Vous voyez vraiment que cela vous concerne. Cela s'applique à moi. Je dois me repentir. Je ne suis pas parfait. J'ai besoin du Saint-Esprit de Dieu, etc. Et alors nous commençons à entendre. Nous voyons, puis nous entendons. Nous devenons disposés à écouter la vérité, à raisonner à travers elle. Ma femme a vécu une expérience intéressante. Elle a enseigné pendant de nombreuses années dans une école maternelle méthodiste. Et l'anecdote intéressante, c'est lorsque le pasteur l'a interrogée, elle lui a expliqué qu'elle ne pouvait pas enseigner un certain nombre de choses concernant les fêtes évidemment. Et il a dit, eh bien, ce n'est pas un problème, très bien. Mais il a ajouté, écoutez, nous sommes méthodistes. Tant que quelqu'un vient le dimanche et met un billet de vin dans la corbeille, nous sommes plutôt satisfaits. Vous vous dites, tiens, c'est un aveu assez surprenant. Ensuite, alors que Pam expliquait ses convictions à l'école, la dame, qui dirigeait l'école?
L'administratrice a écouté Pam en expliquer une partie, et puis elle a simplement dit, très bien, cela suffit. Ne m'en dites pas plus. Son cœur était fermé et elle ne voulait pas l'ouvrir. Et ce n'est pas une critique. Elle n'était pas appelée à ce moment-là, mais elle a compris que toute sa vie changerait et serait bouleversée si elle suivait cette voie.
Parce qu'à cause de tout ce qui concernait l'école et de son mari qui était juge, cela changerait toute sa vie. Et elle n'était pas prête à le faire. Donc, elle n'était pas disposée à écouter, encore une fois, ce n'est pas une critique, elle n'était pas appelée. Lydie est décrite dans le livre des Actes. Lydie était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. C'est ainsi que nous commençons à comprendre. Dieu ouvre nos yeux et nous voulons entendre, nous désirons qu'il nous enseigne davantage. Et puis, l'émotion entre en jeu. Nous comprenons avec le cœur. Ce n'est donc pas seulement intellectuel, c'est aussi une question émotionnelle. C'est cette émotion, cette conviction, cet engagement qui pousse une personne vers le baptême, vers le repentir, puis à persévérer dans la voie de Dieu, même si cette vie peut engendrer la persécution, même si elle est contraire aux voies du monde, nous la poursuivons avec joie. Lorsque mon épouse est entrée dans l'église avec sa famille, issue d'un quartier composé en grande partie de Slovaques, ils parlaient tous le slovaque. Ils fréquentaient l'église luthérienne slovaque. Tous les cousins étaient là, les tantes et les oncles. Et puis, cette famille est appelée. Alors, que faisons-nous? Nous continuons à être les mêmes personnes qu'auparavant. Mais ne leur parlez pas de ces choses-là. Ainsi, toute la famille élargie les met de côté. Mais pas moi. Et quelque chose est arrivé à ces personnes. Nous ne traitons plus avec eux. Il a fallu environ 30 ans avant que des relations familiales normales ne reprennent. Ils n'étaient pas disposés à écouter, ne pouvaient pas comprendre avec le cœur. Ainsi, cette émotion et ce cœur, cette conviction et cet engagement ne se manifestent pas par des gestes vides, des chansons vides et répétitives qui n'en finissent pas. Ce n'est pas le cœur, c'est une émotion vide. Le cœur se manifeste à travers une vie vécue dans l'obéissance à Dieu. Voilà ce qu'est réellement ce cœur. Même face à l'opposition et à la persécution. Pensez-vous que le groupe de frères et sœurs rwandais qui ont été entassés dans un fourgon de police et emmenés dans une cellule pour la nuit, pensez-vous qu'ils avaient du cœur? Sans le moindre doute. Premièrement, ils sont prêts à traverser une frontière pour pouvoir observer la fête. Nos frères du nord du Rwanda, avec les petites dames assises dans cette cellule avec leur Bible. Eh bien, elles ont du cœur. Absolument. Elles sont convaincues. Elles sont persuadées. Elles se sont investies. Elles sont engagées, tout comme nous souhaitons l'être. Alors je me demande, où est mon cœur? Il y a un autre passage biblique que j'aimerais lire avec vous à ce sujet, et il se trouve dans le second livre des Rois, chapitre 5. Deux Rois, chapitre 5. Cela se passe à l'époque d'Élisée. Comme vous le savez, Élisée est le prophète qui a succédé à Élie. Et de nombreux miracles spectaculaires ont été accomplis par son intermédiaire. L'un d'eux, ici dans 2 Rois chapitre 5, était particulièrement impressionnant. Il y avait un roi syrien à qui l'on rapporte qu'il existe un prophète en Judée, capable de guérir les gens. Il envoie donc Naaman, le commandeur de son armée, qui était atteint de la lèpre, de la tête aux pieds, en lui disant « Va là-bas et tu pourras être guéri ». Vous vous souvenez donc de l'histoire. Naaman descend là-bas. Élisée ne sort même pas de la maison. Il envoie simplement son messager dire à Naaman d'aller se plonger cette fois dans le Jourdain, et Naaman est furieux à cette idée. Il dit « Nous avons de bien meilleures rivières à Damas qu'ici. Pourquoi faire cela ?» Et son serviteur lui dit « Écoutez, s'il était sorti ici, avait dansé, fait tout un cérémonial, jeté de la poussière en l'air, et vous avez dit de manger une herbe spéciale, j'exagère, évidemment, vous l'auriez fait, n'est-ce pas ?» Et Naaman répond « Oui, alors, où est le mal à faire ce que le prophète dit ? Ainsi, Naaman y va. »
Il se plonge 7 fois dans le Jourdain. Et que se passe-t-il? Dieu le guérit. Non pas parce que Naaman était un homme exceptionnel, il était terrible à bien des égards, mais pour montrer où Dieu agissait. Il œuvrait en Juda, en Israël, mais pas là-bas. Eh bien, il s'est manifesté de façon évidente à cet égard. Nous allons donc reprendre cette histoire ici, dans le second livre des Rois, chapitre 5, verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Laisse-moi te récompenser pour cette guérison. » Mais Élisée, au verset 16, répondit « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. On n'achète pas le don de guérison. » Et d'autant plus que Naaman était un chef militaire syrien responsable de la mort de je ne sais combien de personnes, il n'allait pas accepter un cadeau de cet homme. Verset 17. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Encore une fois, cela peut sembler plutôt étrange, mais à cette époque, la plupart des gens pensaient que certains dieux régnaient sur certains territoires. Et puisque Naaman ne pouvait pas rester ici, il demandait « Puis-je emporter un peu de cette terre afin que lorsque je m'incline et adore ce Dieu, l'Éternel, je sois sur son territoire ?» C'est une chose un peu étrange, mais c'est ainsi qu'il raisonnait à l'époque. Il repart donc avec 2 mulets chargés de terre. Verset 19, puis Élisée lui dit « Va en paix ». Ainsi, Naaman le quitta avant d'avoir parcouru une courte distance. Mais, il y a toujours un « mais », semble-t-il. Géhazi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même « Voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. » Et du moins dans son esprit, ce n'était pas juste. Il devrait payer pour cela. Après tout, c'est un Syrien. « L'Éternel est vivant, dit-il, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Élisée ne va pas l'accepter, mais au moins, je peux m'enrichir. » Ainsi, le titre de cette section dans ma Bible est magnifique. Géhazi est avide. Et il poursuivit Naaman. Lorsqu'ils le virent courir après lui, il descendit du char pour le rencontrer. Il demanda « Tout va bien ? Est-ce que tout va bien ?» Et il répondit « Tout va bien, mon ami. Tout va bien. Mon maître m'a envoyé dire, en effet, que 2 jeunes hommes des fils des prophètes viennent d'arriver vers moi depuis les montagnes d'Éphraïm. Veuillez leur donner 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Pure invention. Alors Naaman dit, je vous en prie, prenez 2 talents, pas seulement 1. 1 pour chacun d'eux. Et il insista, il y a 2 talents d'argent dans 2 sacs avec 2 vêtements de rechange, et les remit à ses 2 serviteurs. Et ils les portèrent devant lui. Et lorsqu'il arriva enfin à la citadelle, après un long trajet, il prit soigneusement les objets de leurs mains et les rangea méthodiquement dans la maison, veillant à ce que tout soit à sa place. Puis, après avoir terminé cette tâche, il laissa partir les hommes et ils s'en allèrent tranquillement, sans se retourner. Lorsqu'il entra à l'intérieur et se présenta respectueusement devant son maître, Élisée, celui-ci lui demanda d'une voix calme « D'où viens-tu, Géhazi ? Est-ce que votre mère ou votre père vous ont déjà posé ce genre de questions ?» C'est probablement ce qu'il a ressenti à ce moment précis. Ton serviteur n'est allé nulle part. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Tu m'as brisé le cœur, Géhazi. J'étais là avec toi. Ne crois-tu pas que je pouvais voir cela? Je suis tellement déçu. Mais la phrase qui suit est peut-être aussi importante. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Est-ce maintenant le moment d'accumuler tout cela pour nous-mêmes? Et évidemment, la réponse était non. Maintenant, sa cupidité lui a valu une punition. Malheureusement. Verset 27, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à tes descendants pour toujours. Et Géhazi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Nous devons donc nous poser la question, où en est notre cœur? Nous connaissons bien le passage du Nouveau Testament qui dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Nous nous examinons donc et nous nous demandons « Est-ce là que se trouve mon cœur? Est-il dans l'œuvre de Dieu ou dans l'enrichissement personnel ?» Ce sont de bonnes questions à se poser. Nous n'accusons personne en aucune façon, mais examinons un autre passage dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Il est important de nous demander où se trouve réellement notre cœur, où il réside. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, parle d'une période à venir grande et troublée. Nous commencerons la lecture au verset 7. Dans ce passage, Paul évoque la terrible apostasie, l'abandon de la vérité. Il parle de l'homme du péché, que nous identifions comme ce grand faux prophète mentionné dans le livre de l'Apocalypse. Et il est question de ceux qui n'y arrivent pas lorsqu'il s'agit de suivre la vérité jusqu'au bout. Verset 7. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il est donc évident que quiconque vous dit que la loi de Dieu n'a plus à être observée ne comprend pas l'évangile de Jésus-Christ. Il existe un mystère appelé l'iniquité. La loi de Dieu ne s'applique plus. Vous n'avez plus à l'observer. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Verset 8. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Ainsi, le cas de ce faux prophète sera traité par Christ à son retour. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Il y aura donc un individu doté d'un immense pouvoir spirituel, mais provenant du côté obscur, et capable de produire des signes et des prodiges mensongers. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi périssent-ils? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Il s'agit là d'une compréhension intellectuelle profonde, mais aussi d'un lien émotionnel profond avec la vérité. Nous aimons la vérité. Je dois donc me poser la question, est-ce que j'aime la vérité? Car si ce n'est pas le cas, que me reste-t-il? Une forte séduction est, finalement, la destruction. Ainsi, ceux qui ont échoué ne possédaient pas l'amour de la vérité. Or, ils ont peut-être aimé l'Église. Il est possible d'aimer l'Église sans aimer la vérité, sans aimer Dieu. Je veux dire, comment ne pas aimer ce groupe de personnes? Vous êtes aimable, généreux, affectueux, accueillant. Vous faites tout votre possible pour aider. Les gens peuvent aimer l'Église, mais ne pas aimer Dieu et ne pas aimer la vérité. Cela exige les deux, sans le moindre doute. Je suis donc ravi et honoré d'être parmi la famille de Dieu, dont le cœur est engagé dans l'œuvre, parmi ceux qui ont une passion pour la vérité, parmi ceux qui ont un amour profond pour le Père, pour Jésus-Christ et pour leur mode de vie, parmi ceux qui expriment un amour sincère envers leurs frères et sœurs dans la foi. C'est un honneur de faire partie de ce groupe. Et dans les temps de persécution qui s'annoncent, notre amour pour Dieu, notre amour pour sa vérité, notre amour les uns pour les autres seront la clé pour rester fidèles. Les martyrs qui nous ont précédés, il est dit d'eux qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils étaient totalement engagés. Ils étaient intellectuellement et émotionnellement liés à Dieu, à Christ et à la vérité. Alors, frères et sœurs, fortifions notre cœur. Nous devons, intellectuellement et émotionnellement, ce qui est tout aussi important, nous devons être pleinement engagés afin de pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Ainsi, tandis que notre cœur physique continue de battre fidèlement dans notre poitrine aujourd'hui, consacrons notre cœur spirituel et émotionnel à Dieu et à son œuvre.